Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. C'était en 1963, mais aujourd'hui encore, le monde entier a besoin de rêver.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will they be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream.
I have a dream, célèbre discours de Martin Luther King dont nous venons d'entendre un extrait, car c'est une référence citée à plusieurs reprises dans le roman de notre invité aujourd'hui, Pia Petersen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes d'origine danoise, mais depuis toujours vous écrivez en français, à l'image de ce nouveau livre donc, qui paraît sous le titre Paradigma dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes. C'est une fiction très contemporaine, politique, sociale et utopique, qui s'appuie sur un événement spectaculaire que vous imaginez de nos jours ou dans un futur très proche, à savoir une grande marche silencieuse à laquelle participent tous les exclus, tous les pauvres, tous les invisibles, et qui ici se rendent au cœur de Los Angeles, dans l'immense quartier de Beverly Hills, là où vit la population riche, et au pied du Dolby Theater, où la cérémonie des Oscars est sur le point de se tenir ou pas. Autant dire que c'est le choc entre deux mondes que vous imaginez, une révolution pour peut-être un autre avenir. Alors il se trouve que vous connaissez bien Los Angeles, Pia Petersen, et je me demandais, est-ce qu'en effet c'est parce que vous avez perçu là-bas, vu autour de vous la pauvreté grandissante? Rappelons qu'il y a 80 millions d'Américains qui vivent sous le seuil de pauvreté, que l'idée de ce roman est née, ou c'est un sujet qui vous occupe, qui vous préoccupe peut-être depuis encore plus longtemps?
Depuis toujours, en fait, depuis que je suis arrivée en France. Il y a 25-30 ans, je venais du Danemark, il n'y a pas de SDF au Danemark.
Il n'y a pas donc, de pauvres dans les rues?
Bah à l'époque, non. À l'époque, il n'y en avait pas. Donc, je suis venue en France et je voyais tellement de pauvres dans la rue. Ça m'avait vraiment choquée. Et j'étais très préoccupée par l'idée qu'il fallait faire quelque chose. Et donc, je me suis dit, il faut absolument les réunir tous et faire une marche silencieuse, l'avenue Foch, pour que tous les riches voient la masse, le nombre des gens.
L'avenue Foch, qui est un des quartiers les plus riches de Paris, entre le 8e et le 16e arrondissement.
Absolument. De faire défiler les pauvres dans leur propre quartier, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut forcément aller chez les riches.
Donc vous avez eu cette idée déjà, il y a 25 ans, en tant que personne?
En tant que personne, oui. Et puis j'avais été parler à gauche et à droite, j'avais assez vite eu des amis qui étaient un peu activistes, politiques, etc. Et je leur parlais de mon idée. Et ils ont tous utilisé tellement d'énergie pour que je pense à autre chose et que je laisse tomber, qu'à la fin, j'ai laissé tomber. Et puis, au cours de mes voyages, je vois bien que ça s'empire partout. Et je promenais à Los Angeles. Et puis, stupidement, je me suis dit, mais puisque je ne peux pas faire cette marche dans la réalité, bah, je suis un écrivain, pourquoi je le fais pas à l'écrit? Je vais utiliser la fiction pour créer une réalité. Et puis, qui sait, peut-être que ça peut être un espèce de déclic, un genre double déclic, puisque dans le roman, il y a question de déclic. Je me dis, oui, ben, je vais faire ça. Au moins, j'aurai donné ce que moi, je pourrais faire.
Et donc, en effet, cette marche est le rêve de Laline, une jeune Française née à Paris d'une mère haïtienne et d'un père suédois. Elle est installée à Los Angeles. Le jour, elle travaille dans une société de logiciels. Et la nuit, sous le nom de Luna, elle est activiste, que l'on écrit H-A-C-K, comme les hackers, ces surdoués de l'informatique qui peuvent pirater n'importe quel site. Et donc, en plus, elle tient un blog par lequel elle a lancé ce mouvement, ce rêve qu'elle a eu de tous ces gens qui se réuniraient et qui marcheraient silencieusement. Qui est la Linn, selon vous, Pia Petersen, et qu'est-ce qu'elle représente ?
Je me suis dit que j'ai toujours aimé la figure héroïque. Et autant que j'aime l'anti-héros, autant aujourd'hui, je pense qu'il faut revenir à l'idée d'un héros, parce que qu'est-ce que c'est l'héros si ce n'est celui qui se sacrifie par amour ? Et je me suis dit qu'il était temps de revoir un peu des personnages qui avaient cette générosité-là. Parce que c'est un rêve de trouver un personnage comme ça. Mais je ne voulais pas encore d'un autre homme héros. Je me suis dit qu'en temps de changer, maintenant, pour moi, le plus plausible, ce serait une femme. Et donc, Luna, elle s'est mise en place comme ça. Il me semblait impossible qu'elle ne soit pas informaticienne, qu'elle ne soit pas de plein pied dans le monde informatique. C'est le nouveau langage, donc, et je crois que c'est par là que quelque chose va se faire.
Alors, effectivement, Luna, déjà, elle a les yeux verrons, l'un marron et l'un plus clair. Elle est de deux, voire plusieurs cultures. Elle vit entre le réel et le virtuel. Et en fait, elle incarne à la fois l'ancien monde dans lequel nous croyons encore vivre et le nouveau monde dans lequel nous sommes, mais sans le savoir vraiment. Vous nous montrez en effet qu'il y a une fracture déjà qui a eu lieu sans que nous en soyons vraiment conscients et que c'est sans doute aussi pas un hasard que, même si vous connaissez très bien Los Angeles, ça se passe dans cette ville américaine qui d'ailleurs est sur une faille sismique, c'est-à-dire que du jour au lendemain, un tremblement de terre peut totalement éradiquer cette ville, une faille sismique où tout bouge tout le temps, et puis une ville où se côtoient donc à la fois le luxe, les paillettes, le cinéma, évidemment, puisque ici on croise quelques acteurs célèbres, et puis quelques mètres plus loin, dans des quartiers un peu plus ghettoisés, des gens qui ont tout perdu. Vous nous montrez des SDF qui étaient avocats, des personnes qui avaient une vie normale et qui, du jour au lendemain, à cause de crises financières ou autres, se sont retrouvés totalement à la rue. Donc Los Angeles aussi comme une ville symptomatique de ce qui se passe dans le monde.
Oui, j'ai l'impression de comprendre une partie du monde en essayant de comprendre Los Angeles. C'est une ville qui s'est construite sur des décors de théâtre, donc sur du décor de cinéma, donc sur une partie des rêves. C'est ce vers quoi on aspire. On a envie de vivre dans un film où il y a toujours un happy end qui nous attend. On essaye pour y arriver à faire ça, pour y arriver jusqu'à ce happy end, mais on n'y arrive pas tellement parce qu'on refuse d'une certaine manière la réalité. Los Angeles, c'est à la fois une réalité qui se pose de façon très lourdement, mais elle est basée sur la réalité. C'est rempli de gens qui viennent de partout pour toucher les étoiles et qui finissent pour la plupart dans le caniveau. C'est une ville très curieuse parce que il y a tellement de styles, il y a rien qui ressemble à rien. Il n'y a pas deux maisons qui se ressemblent. Beaucoup des manoirs, etc., sont des choses qui sont restées après un tournage. On ne sait jamais si on évolue dans la réalité ou dans une scène de film.
Si
on n'est jamais vraiment sûr.
Oui.
On n'est jamais vraiment sûr.
D'ailleurs, c'est une ambiguïté sur laquelle vous jouez beaucoup dans le roman, où cette marche silencieuse, quand ils arrivent devant le tapis rouge, ils disent pour rire, oui, c'est un happening, c'est un tournage et on est en train de faire des repères. Et en fait, ce n'est pas du tout le cinéma, c'est la réalité qui arrive.
Ben, en plus, j'étais arrivée, je voyais plein de gens qui avaient l'air très très pauvres, réunis comme ça autour d'une caméra, mais il y en avait vraiment beaucoup, c'était tout d'une foule.
Vous voulez dire, Pia Petersen, que cette scène du roman, c'est une scène dont vous avez été témoin ?
Non, mais j'étais en train d'écrire, et donc je passe et je vois ça, et je me suis dit, comme j'étais justement en train de l'écrire, je me dis, ça y est, et je suis allée m'approcher à ce groupe-là avec beaucoup d'enthousiasme, en train de demander qu'est-ce qui se passe et tout, ça y est, je me suis dit, ça y est, la révolution, c'est les cloches sonnent, et ils m'ont regardé avec stupéfaction, en fait, ils étaient en train de tourner. C'est toujours très curieux, parce que vous écrivez quelque chose, et puis on a l'impression, vous vous dites c'est une fiction, et puis en fait il y a toujours la réalité qui la rattrape à un moment ou à un autre.
Et puisque vous parlez de votre travail d'écrivain, Pia Petersen, comment ça s'est passé? Est-ce que vous êtes allé à la rencontre de ces gens dont vous racontez la vie? Parce que tout est extrêmement documenté, c'est un roman polyphonique. Hein. On le redira tout à l'heure, mais vous donnez la parole évidemment à Laline Luna, mais aussi à Arthur, qui lui a été longtemps dans la rue et qui s'en est sorti. Mais il y a aussi Bronx, il y a aussi Malcolm X, il y a aussi Lachland. Enfin, je les cite de mémoire, ces gens qui vivent à la rue. Et puis aussi, vous nous racontez ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce quartier précisément où ils vivent, ou sous-vivent d'ailleurs, hein, vous y êtes allé, vous leur avez parlé?
Ah oui, oui, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup traîné. Hein. Ça doit faire à peu près 4-5 ans maintenant que je sillonne Los Angeles en long et en large à pied. C'est pas toujours évident parce qu'il y a pas un moment où c'est vraiment très dangereux parce qu'à pied, puis j'ai pas la ceinture noire de karaté ni rien. Donc
non, et puis vous êtes une femme blanche, blonde.
Oui, c'est pas toujours. Des fois, j'ai l'impression que je passe tout juste parce qu'on est tellement surpris de me voir là. Le quartier en question s'appelle Skid Row. Je me suis beaucoup déplacée à l'intérieur de Skid Row. J'ai appris à connaître quelques personnes qui m'avaient aussi introduit davantage. C'est-à-dire qui a pu me montrer des endroits où j'aurais pas pu aller seule.
Donc vous avez fait un travail de terrain.
Ah oui, oui. Je vis dans mon roman, ou plutôt ma vie à moi est construite à la manière d'un roman. La différence entre un roman et ma vie, il n'y en a pas. C'est la même chose.
Mais vous vouliez que ce soit documenté en tout cas?
C'est très documenté. Enfin, c'est très documenté puisque je marche dans la rue avec un cahier, avec un appareil photo et mon stylo, et je prends des notes. J'aime bien poser la fiction dans une réalité qu'évidemment je transforme, mais qui va toujours être hyper réelle en quelque sorte.
Et donc, une réalité, une perspective politique, philosophique, puisqu'ici, à travers vos personnages, on comprend bien, Pia Petersen, que pour accepter ce nouveau monde dans lequel nous sommes déjà, d'abord il faut le nommer. Et pour le nommer, il faut aussi changer de paradigme, d'où le titre « Paradigma » du livre. Il faut rappeler que ce mot « paradigme » est un peu énigmatique, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un concept sur lequel a travaillé Thomas Kuhn, que vous citez à plusieurs reprises, scientifique, historien et philosophe américain, décédé il y a quelques années. Qu'est-ce que ça veut dire, paradigme, selon vous? Comment il faut l'entendre ici?
C'est à la fois une révolution scientifique, c'est aussi le modèle sur lequel nous construisons notre monde, ou les théories qui sont les théories gagnantes. Voilà, je veux dire que si on a décidé qu'il y a eu un Big Bang à un moment, il y a tout autant de théories qui disent le contraire. Pour des raisons à la fois économiques, ou parce que la théorie était mieux écrite ou plus facile à lire, on a choisi ce paradigme-là. L'Église l'a soutenu, donc c'est la théorie d'après laquelle nous réfléchissons aujourd'hui. Cette théorie-là, d'après laquelle nous réfléchissons, c'est la théorie qui nous donne comme des lunettes qu'on se met pour voir de près les choses, voilà.
C'est une grille de lecture.
C'est une grille de lecture. Maintenant, le changement de paradigme, c'est de changer de grille de lecture.
Et changer de lunettes.
Et changer de lunettes,
voir absolument. Le monde autrement.
Voir le monde, c'est le même monde, mais il faut le voir autrement pour pouvoir accéder à autre chose.
Donc, pour résumer, par exemple, il faudrait oublier ou arrêter de penser que dans ce monde, c'est le règne de la suprématie de l'homme blanc et riche, et voir qu'à côté, il y a toute une déclinaison d'autres identités, femmes, de couleur, pas forcément riches, et qui ne répondent pas à cette vision primaire. C'est ce que vous nous dites, Pia Petersen.
Oui, c'est-à-dire qu'on voit bien que la théorie de société avec laquelle nous avons vécu jusqu'à maintenant, qu'on appelle parfois capitalisme, à peu près on a plus atteint, ce n'est plus le théorie qui marche. Ça marche, on est arrivé au bout. On est dans une impasse parce qu'on n'a pas encore, accepté l'idée qu'on a changé de paradigme. Parce qu'en fait, on a déjà changé le paradigme. Mais il faut qu'on s'en rende compte. Si on ne se rend pas compte, le paradigme va continuer à évoluer, mais sans humain aux manettes.
Comme un train qui passe
tout seul.
Tout seul et
ouais.
Vide.
Mais on peut encore reprendre les manettes, mais je crois qu'il faut le faire maintenant. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. Don't you know, we're talking about a revolution sounds like a whisper. While they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Poor people gonna rise up and get their share. Poor people gonna rise up and take what's theirs. Don't you know you better run, 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 run. Oh, I said you better run, 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 run. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Cause finally the tables are starting to turn, talking about the revolution. Talking about a revolution. Oh, while they're standing in the welfare lines, crying at the doorsteps of those armies of salvation, wasting time in the unemployment lines, sitting around waiting for a promotion. Don't you know, talking about a revolution sounds.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur Radio France Internationale en compagnie aujourd'hui de Pia Petersen, avec qui nous parlons de son nouveau roman paru sous le titre Paradigma dans la collection Equinox aux éditions des Arènes. Un livre politique, on l'a dit dans la première partie, mais une vraie fiction où l'on voit comment en quelques jours monter la tension racontée par différents protagonistes, SDF, policiers, urgentistes, journalistes, et comment petit à petit toutes les pièces du puzzle sont rassemblées par vos soins pour en arriver au climax, à cette émeute, à l'affrontement, parce que bien que pacifiste, la marche devient violente. Encore une fois, vous examinez cette guerre des deux côtés, comme si vous ne vouliez pas être juge, comme si vous ne vouliez pas être moraliste. Est-ce que c'était le cas ?
Oui, c'est-à-dire que j'arrive à comprendre des deux côtés. Je viens de familles qui étaient plutôt très aisées, et je vois très bien comment on peut avoir de l'argent, on prend sa voiture, on va de sa villa, quand même assez dans un quartier confortable, on va au travail, on prend des beaux boulevards, et on arrive au travail, et on a vu peut-être un sans-abri, on s'est dit « Ah ben c'est un feignant ». Donc on ne voit pas vraiment, on n'a pas une vraie conscience de ça. De l'autre côté, les pauvres, eux, ils voient les riches, ils vivent au pied du luxe, et il y a une espèce de colère à un moment donné qui va forcément commencer à devenir un peu plus agressif, ce que je peux également comprendre. Donc je me suis dit, il faudrait montrer ça. C'est une question de... Moi, j'aime penser qu'aujourd'hui, ce qui se passe est en partie dû à une espèce de malentendu. C'est-à-dire que les gens sont persuadés qu'ils peuvent être heureux qu'à condition que les autres sont pauvres. Moi, je me dis...
Et inversement, certains pensent qu'ils ne peuvent être heureux que s'ils sont riches. Le malentendu est des deux côtés.
Oui, bien sûr. Mais on pourra imaginer qu'on soit moins avide, ça réglera quasiment tous les problèmes.
Et donc ici, Pia Petersen, vous revenez avec cette idée qui a déjà été évoquée et qui même d'ailleurs est appliquée, du revenu universel, que vous appelez ici la rente, à savoir que chaque habitant d'un pays recevrait chaque mois une somme fixe qui lui permettrait de vivre. Alors ça existe déjà en Finlande, en l'occurrence. Et vous-même, vous citez l'hémisphère nord comme un modèle à suivre, en tout cas dans les pays scandinaves, qui ont commencé de changer leur mode de fonctionnement. Et Si l'entreprise réussit en Finlande, puisque pour l'instant c'est à échelle limitée, on sait que ce sera étendu à tous les habitants du pays, où donc, je le rappelle, chacun recevra un salaire unique et similaire à son voisin. Donc c'est possible, ce n'est pas utopique, Pia Petersen, vous y croyez ?
J'y crois, oui, et créer une utopie, ça ne veut pas dire que c'est utopique, hein. C'est juste une utopie parce que ça n'a pas encore été appliqué. Oui, j'y crois, je crois que c'est en Alaska où ils ont vécu avec ça depuis des années, et c'est une très vieille idée. Moi, je l'appelle la rente parce que pour moi, ça s'assimile plus à une rente. C'est un peu le loyer qui est payé, mais très, très, très en retard. La plupart des économistes aujourd'hui pensent qu'il n'y a que ça. En fait, il n'y a pas vraiment le choix.
Et en même temps, on se rappelle que le candidat du Parti socialiste aux dernières élections présidentielles en France, Benoît Hamon, qui soutenait cette mesure politique, n'a eu aucun succès.
Mais disons que...
Donc ça fait peur.
J'ai écouté un peu en France, je trouve que c'est toujours avancé avec beaucoup de timidité et très peu de conviction. Ça manque un peu de passion. Et c'est souvent en prolongation au système de chômage. C'est-à-dire qu'on va tout de suite parler du don, on va parler de l'aide, de l'assistance, on va donner ça à des gens qui n'ont rien. Non, mais c'est pas ça du tout la question. C'est une rupture, c'est en rupture totale avec ça. On n'est plus du tout dans l'idée du chômage ou une extension du chômage. C'est pas de l'argent qu'on donne spécifiquement aux pauvres, on le donne également aux riches. Tout le monde a droit à cette base-là d'argent, cette petite somme d'argent qui vient tous les mois. À chacun d'utiliser son travail en tant qu'un ajout de valeur.
C'est ça. Donc c'est un plaidoyer pour un nouveau système économique, un nouveau système social qui, on l'a vu, n'est hélas pas encore appliqué en France. Et en même temps, c'est vrai que ce roman Paradigma, qui se déroule sur le sol américain, est un terrible écho à ce que nous vivons aujourd'hui en France, où depuis quelques semaines, il y a la crise dite des Gilets jaunes, où chaque samedi, des milliers de gens défilent dans la rue au nom d'une justice sociale. Vous qui travaillez sur Paradigma depuis plusieurs années, j'imagine, et de l'autre côté de l'océan, ça a dû vous faire un choc de vous voir à ce point rattrapé par la réalité.
Ah bah oui, c'était. je me suis dit ah bah. Mais en fait, je me suis dit ah bah pour une fois, je suis pas trop en avance là. Pour le coup, j'arrive en même temps que les événements. Ça. J'étais un peu content pour... Je trouve très troublant de voir toute cette haine qui encadre tout ça. Parce qu'en fait, les gens, ils n'en peuvent plus. On n'en peut plus, moi j'en peux plus. Personne n'en peut plus.
Ça veut dire que vous êtes du côté des Gilets jaunes ?
Je ne sais pas si on peut être tel que les Gilets jaunes sont présentés, pour ou contre, parce qu'il y a beaucoup de haine raciale, de xénophobie, etc., qui s'inscrit là-dedans. Donc, c'est très difficile de voir ce qui se passe à ce niveau-là. J'ai pas été et le voir de plus près moi-même. Donc, je ne prends pas de position sur quelque chose où j'ai pas pu aller avec mon oreille d'abord. Mais je pense qu'on est tous, que ce soit conscient ou pas, dans un état de panique d'une certaine manière, parce qu'on sait très bien que d'ici quelques années, il y a tout est robotisé. Et donc, il n'y a plus d'emploi. Ça, c'est évident. Il faut un passage ou une transition qui risque de durer 20 ans. C'est terrible de dire que je peux comprendre, mais j'arrive à comprendre cette panique parce que la langue n'est pas à jour. Le problème, c'est qu'on n'a pas les mots nécessaires pour dire ce qui ne va pas.
Alors justement, puisque vous parlez de langue, vous citez Victor Hugo avec cette phrase « Toute révolution devrait commencer par une réforme du dictionnaire ». Qu'est-ce qu'il faut changer dans le dictionnaire, Pia Petersen ?
C'est-à-dire que là, j'ai vu qu'il y a comme ça un nouveau quelque chose qui se fait depuis quelques années. À chaque fois, on se dit, on va faire quelque chose avec le vocabulaire, on va inventer de nouveaux mots, mais des nouveaux mots qui finalement ne veulent pas dire grand-chose. On a des mots qui ne sont pas vraiment adaptés à aujourd'hui puisqu'ils ne prennent pas en compte ce qui se passe aujourd'hui, comme le mot « travail ». Je pense qu'il faut revoir un peu les définitions de façon à que tous ces mots qui font de la société incluent ce qui se passe aujourd'hui, la société dans laquelle on vit. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vivent avec de l'argent qui ne vient pas directement de leur travail, que ce soit des rentiers ou des chômeurs. Hein, c'est un peu la même chose. Donc, travail, salaire, ce sont peut-être deux choses à séparer maintenant, ou du moins il faut l'envisager. Si déjà on prend compte de ça, quand on va utiliser le mot travail, au moins on a l'impression de dire quelque chose et à partir de là on peut commencer à réfléchir. Mais si le langage renvoie toujours à une réalité d'après Deuxième Guerre mondiale,
où il y avait un boom économique.
Voilà, ou comme Sarko il dit, travail mérite salaire, non mais attends, ou il y a un autre, tous les présidents ont dit sans faute, ah mais il faut créer des places de travail. Non mais c'est absurde de dire ça. Pourquoi est-ce qu'on doit créer du travail artificiel? Enfin, moi je sais pas, hein, mais moi je trouve ça ridicule. Moi je dis, je sais pas, moi, pour la fin du travail, t'aimes bien. Ça peut l'être.
Donc, réformer le dictionnaire, c'est pas forcément inventer de nouveaux mots, mais c'est changer les définitions.
Oui, c'est de revoir les définitions, faire en sorte que les définitions évoluent avec le temps.
Alors, il faudrait peut-être en dire un mot à Dany Laferrière, qui est à l'Académie française, qui est ce grand écrivain haïtien et canadien que nous aimons beaucoup ici sur RFI et qui travaille justement sur le dictionnaire de l'Académie française. Alors, puisqu'on parle de langue, rappelons donc, Pia Petersen, que vous avez choisi d'écrire en français, et d'ailleurs à ce titre, vous avez été récompensé en 2014 par le prix du rayonnement de la langue, décerné par l'Académie française, décidément. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler en quelques mots pourquoi, en plus en cette semaine qui célèbre la langue française, vous avez choisi d'écrire dans une langue qui n'est pas votre langue maternelle ?
Mais justement parce que la langue française est une langue qui n'est jamais totalement finie. On peut toujours ajouter quelque chose. C'est une langue qui, malgré une apparence un peu figée, c'est quand même une langue qui bouge beaucoup. On peut toujours ajouter quelque chose aux définitions.
Vous pouvez nous donner un exemple, parce que je suis un peu perplexe.
Ben, si on prend, je peux comparer avec la langue danoise. J'avais vu une discussion, j'ai eu une discussion très, très enflammée avec ma famille. On était penchés sur le mot intelligence. Et dans les dictionnaires danois, il y avait deux, trois définitions du mot intelligence. Or, dans le dictionnaire français, il y en a, au bas mot, une vingtaine de définitions différentes, selon où on les place dans le temps. Et j'avais dit, là, pour les définitions dans le dictionnaire danois, je ne trouvais pas ça suffisant. Je trouvais qu'il manquait matière. On ne pouvait pas être aussi catégorique avec trois petites définitions. C'était quand même beaucoup plus large que ce que donnait le dictionnaire danois. Là-dessus, on m'a dit que j'étais folle. Donc, la discussion était finie. Mais n'empêche que dans le mot intelligence, veut dire une vingtaine de choses différentes, ou peut se dire de façon très différente selon la définition et selon où on le place dans le temps.
Donc c'est pas forcément un rejet de la langue danoise, mais c'est plutôt un amour pour la langue française que vous estimez plus riche et plus stimulante.
Oui, absolument. C'est une langue très très ouverte. Les Français sont pas forcément toujours ouverts en l'utilisant. Ils font un peu les gardiens autour de la langue, mais la langue est extraordinaire. C'est une langue très ouverte et très très riche. C'est très stimulant, c'est une langue qui invite forcément, obligatoirement, au départ. Ça doit être une des raisons aussi pourquoi autant d'écrivains viennent écrire en français. C'est une langue qui invite au départ. Et on n'écrit pas dans une bulle. Si, on écrit peut-être dans la bulle, mais pas pour que ce qu'on écrit reste dans une bulle. C'est pour que ça se confronte au monde et que ça se confronte aux autres.
Une langue qui favorise le dialogue.
Absolument.
Merci beaucoup, Pia Petersen.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de ce nouveau roman, Paradigma, qui a donc été publié dans la collection Equinox aux éditions Les Arènes.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.